FM 93.
Mercredi 17 avril, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, Québec pourrait emboîter le pas à Ottawa et hausser sa taxe sur les gains en capital pour les Canadiens les plus riches. Le ministre des Finances, Éric Girard, veut connaître tous les impacts de cette mesure. Louis Lacroix.
Ottawa va faire passer la portion du gain en capital imposable de 50 à 66 % pour tous les biens de plus de 250 000 $. Le ministre Éric Girard rappelle que le Québec a toujours suivi Ottawa sur ce point.
Historiquement, le Québec a toujours été harmonisé au niveau...
Appliqué au Québec, cette mesure rapporterait gros.
Pour le Québec, c'est de l'ordre de 3 milliards sur 5 ans.
Mais avant, le ministre veut en connaître les véritables impacts.
Le fédéral semble faire plus d'argent qu'on pensait. On veut vérifier les calculs.
Et peut-être qu'être différent pourrait être payant.
Est-ce que c'est possible que d'être une juridiction avec un gain de capital moins élevé, ça attirerait des investissements des entreprises?
Parce qu'après tout, qu'on se le dise,
c'est une hausse de revenus, c'est une hausse d'impôts.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Le phénomène des fraudes est loin de diminuer au Québec. Selon les plus récentes statistiques, 37 000 personnes en ont été victimes dans les deux dernières années, une hausse de 15 %. Annie Guillemette.
Recevoir un appel à propos d'un compte bancaire touché par une fraude et qui demande des cartes et le NIP, un appel d'un proche qui est dans le gros pétrin ou encore un nouvel amoureux qui est très souvent mal pris financièrement sont des histoires classiques de fraude. Selon les régions, les cas varient énormément, d'une baisse de 45 % en Gaspésie à un bond de 64 % en Mauricie depuis 2021. Mais pour le président de l'Association des directeurs de police, Patrick Bélanger, les fraudeurs sont pourtant extrêmement mobiles.
Un problème qui peut être dans une région aujourd'hui, demain, ça peut être dans une autre.
De plus, les moyens des fraudeurs sont très avancés.
L'intelligence artificielle permet de cloner la voix du petit-fils qui appellerait ses grands-parents pour lui dire « Je suis dans le pétrin ».
C'est pourquoi la vigilance est de mise et les autorités lancent un appel à la dénonciation, sans quoi aucune accusation ne peut être déposée. Annie Guillemette, Cogeco Nouvelles, Montréal.
Une préposée en CHSLD livre un témoignage à visage découvert sur les conditions de vie des aînés des Laurentides. Les propos de Cathy Watson-Ouellette sont choquants. La lanceuse d'alerte affirme que des aînés du CHSLD de Sainte-Adèle ne sont pas lavés pendant des semaines ou encore privés de nourriture par manque de personnel.
4 semaines en ligne, la madame, elle s'est fait pas donner son bain parce qu'il y avait un manque d'employés. Pour redonner plus tard parce qu'il y avait pas de surplus dans les autres journées, on est en moins à chaque journée. Fait que le bain, c'est souvent la première chose qui jump.
Selon elle, de nombreuses personnes âgées qui ont bâti le Québec sont victimes de maltraitance au vu et au su des gestionnaires. Les messages d'employés abondent également concernant la situation critique au CHSLD de Sainte-Agathe. Une bagarre à la station de métro Berry-UQAM a provoqué l'évacuation de la station et l'interruption de service en début d'après-midi. Du poivre de Cayenne a été aspergé par un des belligérants. Le service sur la ligne jaune a été interrompu momentanément, de même qu'une partie des lignes orange et verte. Véronique Dubuc est porte-parole de la police de Montréal.
Du poivre de Cayenne aurait été aspergé dans un contexte de bagarre entre deux hommes survenus sur le quai de la station. L'homme ayant aspergé le poivre de Cayenne a été arrêté. Il s'agit d'un homme âgé de plus ou moins 25 ans. Plusieurs personnes ont été incommodées par le poivre de Cayenne. Une seule personne a été évaluée par urgence santé. Aucun transport n'a été requis.
Soulignons que le service du métro a repris depuis. Et au sport, le Canadien a tenu son bilan de fin de saison aujourd'hui à Brossard. Le président des opérations hockey, Jeff Gorton, et le directeur général, Kent Hughes, se sont satisfaits de la progression de l'équipe et se disent aussi conscients du besoin d'améliorer le niveau de talent à l'attaque, mais n'ont pas l'intention de racheter de contrat durant cette entre-saison. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Avril et le soleil sont déjà de retour et les portes de la résidence Seigneur Lepage sont grandes ouvertes pour accueillir de nouveaux résidents. Courez en plus la chance de gagner un mois de loyer gratuit. Prenez congé de la lessive, du ménage et des repas. Installez-vous confortablement dans une résidence pour aînés qui a du cœur. Une résidence où vous vous sentirez tantôt comme au resto, tantôt comme à l'hôtel, mais toujours comme chez vous, à la résidence Seigneur Lepage de Rimouski. Contactez Mélanie au 418-723-0243. Elle vous expliquera les règles de notre concours et l'ensemble des services offerts par notre résidence.
Ne manquez pas la toute nouvelle chronique de Sébastien Desjardins de H. Grégoire Rimouski. Démystifions la vente de véhicules usagés et tout ce qui l'entoure. Il a de bons conseils pour vous. Soyez au rendez-vous tous les vendredis à 9h15. Une présentation de H. Grégoire Rimouski.
Les faits, les vrais. CFIX 93, son équipe et le studio McDonald, un trio de champions. Jusqu'à 15h, vous écoutez Sans Réserve. Sans Réserve. L'émission d'affaires publiques. Voici Luc Ferrandez.
C'est la troisième heure de l'émission. On la commence avec Mickey Guerrier. On la terminera avec Sylvie Fréchette. On reste dans le sport. On l'interrompra, le sujet du sport, par Philippe Léger, qui va évidemment parler de Éric Lefebvre, qui quitte la CAQ pour les conservateurs. Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que c'est une tendance? Et on parlera aussi à Marie-Ève Saint-Amour, propriétaire de la boulangerie Saint-Donat. 100 ans, Saint-Donat à faire des tartes au sucre, puis avec du vrai sucre, hein, du vrai sucre d'érable, de la vraie crème, avec du vrai beurre. Hâte de lui parler. Mickey Guerrier, qu'est-ce que tu as dans ta grande besace à information?
Avant de parler de toute chose, Luc.
Avant de partir.
Ouais. Sylvie Fréchette.
Ouais.
Brésil.
Brésil.
Pour moi, c'est indissociable. La juge brésilienne.
La tabarouette. On l'aille tous, indépendamment. Collectivement et individuellement, on l'aille tous.
C'est quand même incroyable quand tu dis que un pays te fait penser à une athlète. Ça n'a pas de sens.
Elle avait quoi? Elle avait triché ou...
Elle dit qu'elle avait enregistré, c'était trompé dans son pointage. Ouais. Elle a mis 8,7 au lieu de 9,7. Puis c'est ce qui fait que Sylvie Fréchette n'avait pas gagné la médaille d'or. Puis là, ben, il y avait eu plein de rumeurs et on avait discuté de malversations, etc. En tout cas, ouais, ça m'a fait penser à ça.
Mais en même temps, il lui avait remis au forum.
Ouais. En même temps, Sylvie Fréchette est en politique. Elle a été en politique.
Elle s'est présentée, mais elle n'a pas eu de succès.
Non, je sais, mais quand même. En tout cas, moi, ça ressasse des souvenirs un peu douloureux. Oui,
qu'on la pogne pas, celle-là.
Lorsqu'on parle
ça, c'est comme Sylvie la mère de la marotte dans Aurore, l'enfant martyr. Qu'on la voyait pas sur le trottoir.
Ah, OK. Moi, je pensais que tu allais me parler de Cendrillon.
Oui, mais il y a Cendrillon aussi, ça n'a pas aidé, ça.
Et là, là. En tout cas, voilà, Luc, retour au sujet un peu plus sérieux de la marâtre à Cendrillon.
L'as-tu vu, Aurore, l'enfant martyr?
Non, je ne l'ai jamais vu. Je sais que c'est classique, mais je connais.
Écoute, les gens, ils pensent que Martineau, c'est Marino, là?
Oui. Normand Marino,
il y a un accent, mais celui qui appelle sa sœur Aurore.
Ouais.
Dans Aurore, l'enfant martyr, là, je peux te dire que ça, c'est tout un accent.
Luc, d'ici la fin de l'émission, on écoute-tu les deux d'ici la fin de ma chronique? Ça serait malade. Un sujet un peu plus sérieux, mais léger aussi, parce que c'est pas la fin du monde, hein? Canadien de Montréal. Je sais que t'en as parlé avec Martin aujourd'hui.
Non, pas si pire. Hein?
Tu vois, Luc, c'est exactement de ça que je veux te parler.
Vas-y.
Parce que Canadien de Montréal a eu une saison... Tout est une question de perception. Et moi, c'est ça qui me... Pas qui me chicote, mais qui me fascine.
On est en 8e place de la section...
Hey, Luc, ça, t'as-tu déjà vu ça? Puis moi, je pense que les entreprises du Québec, et surtout les entreprises de communication, entre autres, peuvent apprendre énormément du Canadien de Montréal. Il y a plusieurs phénomènes dont on parle souvent. T'sais, on peut parler du capital de sympathie, par exemple. On peut parler de la gestion des attentes. On peut parler également de progression dans une entreprise. Tous des termes que, chez le Canadien de Montréal, on semble jongler très bien avec tout ça. Parce que le Canadien... En ce moment, la saison est pas terminée, là, mais le Canadien va finir 27e, OK, à peu près. Il y a juste les Coyotes, soit 28 ou 27e, parce que les Coyotes de l'Arizona, s'ils gagnent leur dernier match, ils passent devant le Canadien de Montréal.
C'est chaud.
Non, mais Luc, quand tu regardes ça, là, puis après ça, tu regardes le nombre de buts accordés, le nombre d'avances que le Canadien a perdu, etc., Et quand tu compares ça au discours aujourd'hui de bilan du Canadien de Montréal et tout ce qui va s'écrire et qui s'écrit dans les journaux et dans les différents médias, on dirait que le Canadien a terminé genre...
Neuvième.
Genre, tu sais, entre 9 puis 15, puis là, on a participé aux séries, mais on a été éliminé en première ou deuxième ronde, mais tu sais, il y a une progression, on s'en va... l'équipe est pas encore arrivée à maturité, mais il va falloir prendre des décisions pour l'avenir, mais notre objectif, c'est de gagner la Coupe Stanley, etc. Non, on parle d'une équipe qui finit 27 ou 28e.
OK, mais je me fais l'avocat du diable.
Et oui, j'espère que tu vas le faire, Luc.
Alors, regarde, Détroit jouait pour une place en série.
Ouais.
Ils étaient tout feu, tout flamme.
Ouais.
Ils ont eu de la misère à nous battre en maudit.
Oui,
mais... au tir de barrage. Alors que le Canadien aurait pu lever le pied.
Non, Oui, oui, je suis d'accord
puis
avec
aussi,
toi.
Deuxième argument, Lynn Hudson, ouais. Logan Mailloux, Slavkovski.
OK, et c'est là qu'on arrive avec l'espoir. Parce que le Canadien, depuis à peu près 30 ans, c'est ça qu'on nous vend, de l'espoir. Et là, je vais le dire tout de suite aux gens là, qui vont m'écrire. Il y a un gars qui m'écrit, là, il m'insulte. T'étais où quand le Canadien s'est rendu en finale? Le Canadien s'est rendu en finale parce que c'était durant la pandémie. On jouait juste contre les équipes canadiennes dans la division canadienne. Et le Canadien s'est rendu en finale contre Tampa Bay. Si le Canadien avait été dans une saison normale, on aurait joué contre Tampa Bay en première ronde. Regardez comment ça s'est passé.
Fait. Moi, je préfère qu'on joue en finale contre Tampa Bay à la fin.
Ben, Luc, peu importe, le Canadien se serait pas rendu en finale dans une saison dite normale. OK, ça, fait qu'arrêtez de me rabattre les oreilles.
Toronto, d'ailleurs, parce qu'ils se rendent jamais.
Ouais, ça, c'est ben correct, là, 67, là, pas de Coupe Stanley. La dernière fois qu'ils ont gagné la Coupe Stanley, la télé est en noir et blanc. Fin de la parenthèse. Tout ça pour dire que le Canadien, depuis 30 ans, là, sa vie va des hauts, des bas. On est dans des montagnes russes. Des fois, ça va pas pire. Des fois, ça va correct. Des fois, ça va mal. Mais l'équipe finit 27 ou 28e. Puis là, on est relativement satisfait. Les joueurs sont de bonne humeur. Je comprends qu'on a une équipe jeune puis qu'on est en progression. T'as pas besoin de faire l'avocat du diable, Luc. Je suis cette équipe-là. Je comprends exactement où on en est dans le processus. On a décidé de rebâtir, mais vraiment à la base. On a rasé la maison. On a gardé la fondation. Puis là, on bâtit là-dessus. Je comprends tout à fait. Mais Luc, si j'avais la moitié des arguments du Canadien ou de cette force de persuasion, hey, j'aurais jamais été chicané par mes parents. Moi, d'avoir redoublé mon secondaire 2, puis d'avoir échoué des cours au cégep, puis de pas être bon en maths puis en chimie. Écoute, Luc, ça a pas de bon sens. Ouais, comment écoute, on leur donne le bon Dieu sans confession?
Boeing
là.
Doit engager le relationniste du Canadien. On a perdu un avion encore cette semaine. mais on a pas mal qui volent comme faux, là.
Mais tout ça, c'est explique par plusieurs choses, Luc. D'abord, et tu sais, je suis pas complètement rabat-joie non plus, là. Je suis très réaliste. Moi, je paye pour aller au Centre Bell la plupart du temps. T'sais, oui, j'ai accès à la galerie de presse très souvent, mais je partage des billets de saison avec des amis, donc je paye de ma poche pour aller voir le match. Et même si le Canadien perd, je suis content d'aller au Centre Bell. Pourquoi? Parce qu'on a un spectacle. Et ça, je pense que c'est la partie que on sous-estime parfois dans les médias. On dit, voyons, les partisans acceptent ça. Ils n'auraient jamais accepté ça il y a 20, ouais. 30 ans. Dans les autres équipes de la Ligue. Non, les amis. Quand tu payes ton billet 100, 150, 200 piastres pour aller au Centre Bell, puis que là, tu prends un verre avant le match, puis un petit souper, puis tu prends un verre après la première, la deuxième période, puis tu prends un verre pendant les périodes, puis tu es le gars dans l'allée pour manger du popcorn, puis tu sors de là, ça te coûte à peu près 500, 600 piastres pour ta soirée.
Et mon Dieu.
Ce que tu veux, c'est pas une victoire nécessairement. Tu veux voir un club qui se bat. Tu veux voir un club qui te donne un spectacle. Tu veux avoir du fun. Tu veux pouvoir te lever pour célébrer des buts, etc. Puis tu veux voir aussi l'avenir, l'espoir, puis dire, hey, on s'en va dans la bonne direction. Et c'est ça que le Canadien offre en ce moment, avec une certaine transparence aussi, de dire, on s'en va par là, les amis. Ça va être tough, ça va être long. Mais là, on est conscient que depuis 3 ans, on bâtit. L'année prochaine, on s'attend à faire les séries, même si on l'a pas dit clairement comme ça. Mais tu vois que il y a une progression. Mais ce qu'on a bien fait chez le Canadien, c'est qu'on a géré les attentes des partisans, les attentes des journalistes, entre autres. Et ça, je pense que ça aide le Canadien à passer à travers cette période qui est difficile.
Et je pense que c'est la dernière fois, par contre. C'est la dernière année. L'an prochain, là, ils ont ce qu'il faut.
On va commencer à s'impatienter, je pense, l'année prochaine. Et si on fait pas les séries, ben, l'année suivante, il y aura énormément de pression sur le Canadien de Montréal, en particulier sur Martin Saint-Louis aussi, d'ailleurs, qui a signé une prolongation de contrat, ou du moins, on a pris l'option, il sera là pour encore 3 ans chez le Canadien de Montréal.
Bon, ben, une affaire de régler. Un joueur de la NBA, NBA qui est banni à vie, comment
Écoute,
ça?
Écoute, c'est une histoire.
Lui qui a sorti son pistolet?
Non, ça c'est Gilbert Arenas. Ça c'est Jamorant aussi a sorti jouer du gun, comme on dit, il y a quelque temps. Non, c'est John T. Porter. Je t'en avais-tu parlé dernièrement, John
je
T.
Pense
Porter?
Que oui.
Un joueur des Raptors de Toronto qui avait été pris dans une histoire de paris sportif. Là, on a eu une enquête de la NBA parce que c'est un joueur marginal, on peut dire. C'est pas un joueur régulier, la NBA. Il avait un contrat à deux volets dans la NBA, donc il jouait dans la G League, qui est la ligue de développement, mais également dans la NBA. Et il a été banni à vie pour une histoire de paris sportif. Et c'est assez troublant, cette histoire, parce que il a non seulement parié